Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais aimer qu'on se penche ensemble sur une question qui me semble importante pour la croissance spirituelle, la question du discernement. Voici quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. Et je crois qu'il y a une chose qui peut révolutionner notre monde ces dernières décennies, c'est le développement d'Internet. Aujourd'hui, avec un tout petit objet rectangulaire qui tient dans votre poche, vous pouvez accéder n'importe où, n'importe quand, à une quantité incroyable d'informations. C'est vraiment une révolution. D'ailleurs, mes enfants m'ont bien compris quand ils me posent une question du genre « Papa, dis-moi, c'est qui la personne la plus grande du monde ?» Je réponds « Je ne sais pas. » Ils me disent « Demande à l'autre qui vous c'est vrai, c'est tout, ou presque. Et pour les chrétiens, Internet est aussi un outil formidable. On y trouve ce qui se fait de meilleur. Grâce à Internet, vous pouvez accéder à des outils pour étudier la Bible. Vous pouvez accéder à des milliers de prédications d'enseignements qui vont nourrir votre foi. Vous pouvez les faire écouter en permanence chez vous, n'importe où dans le train. C'est formidable, on doit en profiter, on doit se saisir de ce privilège qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, on trouvera aussi sur Internet ce qui se fait de pire. Et y compris dans le domaine spirituel de soi-disant prophètes qui en sont déjà leur cinquième annonce de la fin du monde pour la semaine dernière, bien entendu. D'autres soi-disant enseignements qui vont remettre en cause des fondements pourtant de la foi chrétienne, comme la nature divine de Jésus, comme la Trinité, et sans parler de tous les sites non chrétiens, qui sont tenus par des athées ou par des apologètes musulmans, qui ont pour but uniquement de vous détourner de la foi en Jésus-Christ. Alors, les faux prophètes, les faux enseignants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que déjà à l'époque de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. Ce n'est pas une nouveauté. Mais la nouveauté, c'est qu'avec Internet aujourd'hui, tous ces faux enseignants et faux prophètes sont emportés d'un clic. C'est ça qui change beaucoup de choses. Alors, comment faire le tri, on pourrait dire, dans tout ce qu'on peut lire, dans tout ce qu'on peut entendre, pour se tenir au niveau de la foi? Je trouve que plus que jamais, on a besoin de développer notre discernement spirituel. Et comme vous allez le voir, le discernement spirituel, c'est aussi quelque part une question de conviction. Et j'aimerais résumer tout d'abord en quelques mots un peu ce qu'est le discernement d'après la Bible. Notre Dieu est le créateur de toute chose. Son être particulièrement intelligent. Bien plus que Google. Il est omniscient. Il sait tout. Et nous avons été créés à son image. Et parce que nous avons été créés à son image, Dieu nous a donné une intelligence, un discernement supérieur à toutes les autres créatures. Et ce discernement réside en fait dans le fait que nous soyons connectés à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés pour que nous soyons connectés à lui. Nous avons une relation privilégiée avec ce Dieu qui sait tout. Dans le jardin d'Éden, l'être humain était connecté en permanence sur Dieu. Il bénéficiait ainsi d'un discernement qu'on pourrait dire presque parfait, puisqu'il était connecté de la bonne source. Malheureusement, Adam et Ève se sont laissés briller par un commercial perfide déguisé en serpent qui leur a fait croire qu'ils avaient tout intérêt à changer de fournisseur d'accès à la connaissance. Ils ont donc choisi de se déconnecter de Dieu pour se connecter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien entendu, c'est une pécheresse. C'est quelque part une image qui nous rappelle ce qu'est l'être humain pécheur. Celui qui prétend pouvoir connaître ce qui est bien et ce qui est mal en dehors de sa relation à Dieu. Si on peut tomber, vous ne pouvez pas aller contre les principes que le Créateur de l'univers a mis en place et penser que tout va bien se passer. Le le péché est entré dans le monde et il suffit d'allumer la télé tous les soirs à 20h pour entendre Jules Bouleau ou le vent de la mousse, vous informez des conséquences de cette folie au monde qui rejette Dieu, et en particulier dans ce qui concerne le bien et le mal. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de venir régler lui-même le problème. Et il a envoyé Jésus. C'est lui, Dieu qui est homme, le Fils de Dieu, pour payer à notre place le prix de notre reconnexion. Et il l'a payé très cher. Il l'a payé de sa vie. Et pour nous, chrétiens, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous avons cette assurance que nous avons été. Et ça, c'est la conséquence sur notre discernement. Car ça devrait en être. Parce qu'en Jésus, notre discernement prend de nouveau sa source en Dieu. Et ça passe d'ailleurs par un merveilleux fournisseur d'accès à Dieu. C'est plus rapide que la fibre optique qui est disponible dans les zones non couvertes par la 4G. Le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence, dit l'apôtre Paul. Il vient nous reconnecter sur la pensée de Dieu. Il vient nous apprendre à discerner de nouveau selon les critères de Dieu, et non plus selon les critères que nous avons, ou selon les critères de la société. Et en 1 Corinthiens 2, Paul le dit, ainsi, c'est seulement le Saint-Esprit permet de bien juger ces choses. Et celui qui a le Saint-Esprit peut juger de tout. Parce que nous avons le Saint-Esprit en Jésus-Christ, nous sommes appelés à juger de tout par le Saint-Esprit, par cette connexion avec Dieu. Nous devons le laisser influencer nos pensées, nous devons le laisser guider notre discernement. Je voulais dire, si on a le Saint-Esprit, en chrétien, on a donc tous un bon discernement. Mais pour l'arrêter là, on a tous un bon sens. Sauf que Paul continue. Et voici ce qu'il dit, Dieu va se trouver en tout début du chapitre 3, et dire, en réalité, frère, vous, les parents, qui avez l'Esprit de Dieu, je ne peux plus vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde. Comme des enfants dans la foi chrétienne. Et c'est du lait que vous avez donné, non pas de la nourriture solide, car vous ne l'avez pas supporté. La même manière, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprocher à certains chrétiens qui sont encore des bébés spirituels après plusieurs années de vie chrétienne, alors qu'ils sont appelés à devenir et à être des adultes dans la foi. Au verset 14, chapitre 5, verset 14, il va dire que ce qu'on est en adulte dans la foi, c'est les chrétiens qui sont entraînés, exercés au discernement du bien et du mal. Disons qu'il y a bien un processus, il y a bien quelque chose qui progresse dans la foi du discernement. Nous sommes appelés à devenir des adultes. En Jésus-Christ, autrement dit, notre connexion a été rétablie, c'est vrai, on est reconnecté à Dieu. Mais on vit encore dans un monde de flou. Nous sommes encore atteints par le péché. Le diable est encore à l'œuvre dans ce monde. Et par conséquent, on doit apprendre à discerner de mieux en mieux, on va dire, ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. On doit sans cesse travailler à l'amélioration de notre connexion avec Dieu. Ça fait partie du cheminement du chrétien normal. Améliorer notre connexion avec Dieu, améliorer aussi peut-être notre système antivirus, son efficacité, et c'est ça, quelque part, le discernement spirituel. Quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se développe tout au long de la vie chrétienne, ça ne tombe pas du ciel à la conversion, il y a quelque chose qui se passe à la conversion, de fort, de merveilleux. Mais on a appelé à développer cela tout au long de notre vie avec Christ. ça se développe au fur et à mesure de sa relation avec Dieu. Si j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, comment développer son discernement spirituel? Quelle attitude adopter? Et je vous propose de se tourner ensemble vers un court texte qui se trouve tout à la fin de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. On va lire les versets 19 à 22. Ne perçoit pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophètes. Au contraire, examinez toutes choses. Retirez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, de quelque forme que ce soit. Un texte court et qui dit beaucoup de choses en quelques mots. La première chose que nous dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. D'autres traductions ont n'éteignez pas l'esprit. C'est la même image. Le verset suivant explique en quoi ou comment nous pouvons empêcher l'esprit de vous éclairer en maîtrisant les prophéties. Je ne sais pas si certains ici utilisent des filtres Internet pour bloquer le télé automatiquement l'accès à certains sites dangereux. Le site pétricantable ou auquel vous n'avez peut-être pas encore accès. C'est un très bon outil. Je vous conseille surtout si vous avez des enfants d'utiliser un site internet. Mais, vous voyez, ce site, si vous ne savez pas bien les paramétrer et si vous les avez au maximum, voire un peu plus, ça peut produire l'effet qu'au final, vous n'accédez plus rien. Votre connexion est bloquée. Le site est tellement fort que vous ne pouvez plus accéder à aucun site internet. Mais je crois qu'en matière de discernement spirituel, parfois certains peuvent être tentés de développer de tels filtres. Des filtres tellement exigeants qu'ils bloqueraient l'accès à toute prophétie, à tout enseignement, à tout ce que le Seigneur pourrait inspirer par son esprit. De telle sorte qu'ils viennent à ne plus rien écouter, même ce qui pourrait être inspiré par le Seigneur. Et en France, je crois qu'on est particulièrement champion pour ça, pour douter de tout, pour tout critiquer. Et on a développé parfois un tel sens critique, y compris dans l'Église, dans la vie chrétienne, qu'on ne peut plus rien entendre de ce qui va différer de notre conception bien établie, bien définie de l'Évangile, de ce qu'on pense être l'Évangile. Certains chrétiens, eux, sont des champions pour voir des faux prophètes, des faux enseignants partout. Ils le disent haut et fort. Ils dénoncent au pouvoir tous ceux qui ne prêchent pas le pur évangile, certifié 100% selon la norme 777 fixée par une autorité de la doctrine pure, biblique et sans tâche. Bien ceux qui ne font pas partie de la pure église, 100% bio, sans matière grasse, ni produit unique, ou que sais-je. Et au final, on a des filtres tellement exigeants qu'on ne peut même plus entendre. Inspiré par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, c'est la première fois, avant de nous dire examiner toutes choses, il nous dit attention, n'empêchez pas non plus le Saint-Esprit de vous éclairer. Ne critiquez pas, ne rejetez pas d'emblée tout ce que vous pourrez entendre prophétiser ou enseigner. Et il nous dit en tant que cela, vous faites quelque part, vous éclairez le Saint-Esprit. Vous faites vous empêchez le Saint-Esprit de vous éclairer. Vous fermez la porte au Saint-Esprit qui veut utiliser vos frères, vos sœurs en Christ pour vous aider à progresser. La première attitude qu'il faut donc avoir, c'est apprendre et vous apprendre parfois à se mettre à l'écoute. Avant de critiquer, il faut écouter. Et laisser la possibilité au Saint-Esprit de remettre en question aussi parfois nos certitudes bien établies, notre manière de voir les choses. Ouvrons les fenêtres de notre cœur et laissons l'Esprit de Dieu nous apporter la lumière. Si nous pouvons adopter une attitude d'ouverture, la suite, on va s'intéresser un peu plus à ça, on nous dit aussi qu'il ne faut pas toutes accepter comme parole de Dieu tout ce qui sort de la bouche, même de quelqu'un qui se présente comme chrétien. L'apôtre Paul continue avec un autre impératif en disant examinez toutes choses. Non pas examiner ce qui vous dérange, ce que vous n'avez pas trop là dans cette prédication, mais examinez toutes choses. Après, vous voyez, avoir visé les spécialistes de la critique, Paul dit maintenant ceux qui acceptent tout, ça va faire. Et à de nombreuses reprises, on trouve cette exhortation dans la parole de Dieu à discerner, à être attentif. On a vu dans l'introduction, on est appelé à développer ce discernement en travaillant la qualité de notre connexion à Dieu, on est appelé à progresser en maturité de notre discernement. Alors, comment faire pour examiner toutes choses? L'apôtre Paul nous l'explique. Il dit qu'il s'agit de reconnaître ce qui est bon, de saisir ce qui est bon, et de mettre de côté, de rejeter ce qui est mauvais. Remarquez, je trouve ça intéressant, qu'il ne nous demande pas aussi de différer entre ce qui est vrai et faux, mais entre ce qui est bon et mauvais. Et je trouve ça intéressant, parce que ça oriente différemment notre regard. Non pas vers le vrai et le faux, mais vers le bon ou le mauvais. Alors attention, la vérité, c'est quelque chose qui est valorisé dans la Bible, quelque chose à laquelle on doit aspirer en tant que chrétien. La vérité nous rendra libre, dit l'évangile de Jean. La Bible condamne aussi ce qui est faux. Le prophète qui dit les fausses prédictions, l'enseignant qui transmet les fausses choses. En Jean 4 nous dira qu'on doit discerner entre l'esprit de vérité et l'esprit de vrai. Même si, et dans bien d'autres passages, donc en même temps que le ministère, mais dans d'autres passages, on est invité à discerner non pas entre ce qui est vrai, mais fondre entre ce qui est bon et mauvais. Je trouve ça intéressant. Ça réoriente un peu notre regard. Autrement dit, sur les conséquences de la prophétie ou de l'enseignement. Est-ce que ça produit du bon ou est-ce que ça produit du mauvais et en particulier dans la vie? Cette réorientation de discernement semble en particulier utile pour ce qui concerne le discernement de la prophétie. C'est bien que c'est difficile, bien souvent, de discerner entre une vraie et une fausse prophétie. Il y a un exemple. Bien les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus et ont fait plusieurs centaines d'années auparavant. Comment est-ce que les contemporains d'Ésaïe ou de Zacharie ont-ils pu vérifier que ce qu'ils annonçaient était vrai? N'est pas vécu. Par contre, il est bien plus aisé de discerner une prophétie qui pousse à faire le bien, en exhortant, en modifiant, en réconfortant, en invitant à faire la repentance, en tournant les regards de Dieu et en être sauveur. C'est clairement ce que font Jésus, Zacharie et tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'autre, la suite de Jésus. Consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Vous savez, on peut avoir la meilleure théologie, on peut avoir la plus pure des doctrines, on peut connaître la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, si ça reste au niveau du cerveau, ça n'a aucune conséquence sur nos vies, comme les pires des chrétiens. Si par contre, cela influence notre vie, façon d'être, notre relation personnelle avec Dieu, alors oui, on entre dans ce que Dieu veut pour nous, et c'est le bon. On apprend à repérer ce qui est bon ou mauvais, on répond ce qui est bon. C'est-à-dire, mettons-le en pratique. Parce que le but du discernement, ce n'est pas juste de savoir ce qui est vrai ou faux, mais c'est de progresser vraiment dans notre relation avec Dieu, c'est de pouvoir saisir ce qui est bon. Et l'appliquer à nos vies, nous aider à progresser avec nous. Et si on appelle à repérer ce qui est bon, c'est vraiment un impact sur notre vie et notre vie avec Christ. Mais là, c'est une question. Comment savoir ce qui est bon ou mauvais? Bien entendu, notre référence ultime en matière de bien ou de mal qui nous permet de savoir ce qui est bon ou mauvais, ce n'est pas le manuel de morale républicaine, ce n'est pas la loi de notre pays, c'est la parole de Dieu, la Bible. Sans erreur. parole de Dieu sans avoir guide parfait pour notre vie. Et si vous voulez exercer votre voix à discerner la voix du Saint-Esprit, plongez-vous dans l'Écriture, parce que l'Écriture ont été inspirées par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez reconnaître la voix de Dieu, nous avons aussi quelque chose de solide, quelque chose de sûr et certain. On a là le manuel qui a été fourni par le Créateur et le développeur du réseau. Alors, c'est une petite précision. C'est la Bible dans son ensemble qu'il faut apprendre à connaître. Avec toute sa nuance, avec toute sa progression vers Jésus-Christ, son centre en Jésus. La Bible dans son ensemble, pas juste un ou l'autre verset biblique qu'on peut tirer au hasard et pris hors de son contexte. C'est la Bible tout entière qui est la révélation de Dieu. Et il y a un récit qui, je crois, illustre bien cela, c'est le récit de la tentation de Jésus par le diable qu'on trouve dans les évangiles. On retrouve le commercial perçu de Genèse 3. Il est de retour. Et cette fois-ci, il veut convaincre la plus Adam et Ève, mais Jésus, de changer le fournisseur d'accès. Comment est-ce que Jésus répond à Dieu? En citant l'Écriture. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Face à la tentation, Jésus reste connecté sur Dieu et il le fait par le biais de sa parole à l'Écriture. Alors là, le diable aussi connaît Emmanuel. Et il l'utilise même pour tenter Jésus. Le diable va dire, saute dans le vide. Sans parachute, non. Tu peux le faire, parce qu'il est écrit, c'est dans la Bible. Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne le heurte. Une pierre, Psaume 91, 11, verset 12, saisis-le par la foi et saute. Et oui, l'adversaire peut aussi utiliser la Bible pour le détourner de Dieu. Jésus connaît l'Écriture, pas juste quelques versets comme ça, fétiches, pas juste quelques versets pris comme des formules magiques, vous savez, pour se protéger du mauvais sort ou bien pour s'assurer la prospérité. Il connaît la Bible dans son ensemble, dans son ensemble, et il sait que ce que dit le diable, c'est pas juste, c'est pas la parole de Dieu. Il la détourne. Le diable, c'est des spécialistes pour faire dire à Dieu qu'il n'a pas dit. Savoir si c'est bon ou mauvais, et donc connaître notre Bible. Et ça passe par une lecture régulière, quotidienne, par un désir aussi, non seulement de lire la Bible, mais de l'étudier et de progresser dans la connaissance, dans la compréhension de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est toujours sur ce chemin-là? Est-ce qu'on connecte à Dieu par sa parole? Nous avons le privilège en plus d'être à une époque où, plus que jamais, l'accessibilité à la Bible est facile. On est dans une société où, grâce aux petits boîtiers qu'on a dans notre poche, on peut lire la Bible dans plein de traductions, on peut trouver des outils facilement accessibles, on a des livres qui sont dans des prix raisonnables, on a vraiment tous les outils pour étudier la Bible à notre disposition. Mais nous en privons pas, pardon. Faisons de la parole de Dieu, la lumière sur notre chemin, évitons ainsi bien les pièges. On évitera aussi les détours que je crois inutiles. On apprendra à sauter les obstacles, marcher sans nous épuiser. On dit souvent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et comme c'est clairement la parole de Dieu, la Bible. Autre critère important pour le discernement, c'est la place que Christ occupe. Le message que nous entendons. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de notre foi. C'est que Jésus-Christ a accompli en mourant sur la croix, en ressuscitant. C'est la première chose du cœur de la foi chrétienne. On ne peut pas être connecté à Dieu sans passer par Jésus. C'est impossible. Nous ne devons pas faire que par lui. Par conséquent, dit la Bible, nous pouvons reconnaître l'Esprit de Dieu, et ça c'est un critère de discernement, à celui où nous redirigeons vers Jésus. En Luc 24, c'est bien le critère qui est proposé pour le discernement des esprits. Au cours de l'Épître de Jean, tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venant, c'est l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus, n'est pas de Dieu. C'est ça. Alors, lorsqu'on entend un enseignement de prophétie, posons-nous cette question. Est-ce que cette parole m'encourage à me rapprocher de Jésus? Est-ce qu'elle est en accord avec ce que nous dit la Bible de Jésus? Est-ce que Jésus est présenté comme la source de qui je dois me tourner pour le pardon, pour le salut, pour ma marche avec Dieu? Est-ce que la grâce est prêchée? Est-ce que tout cela m'invite tout simplement à tourner les regards vers Jésus? Alors, ça signifie pas que chaque prophétie, surtout quand elles sont courtes ou bien en fait, prédication, doit rappeler le plan du salut en Jésus-Christ de tout le détail. De même, une prophétie sera rarement explicitement anti-chrétienne, en tout cas dans nos églises, je pense que. Mais si on vous prêche le bonheur, le succès, la repentance, la victoire, quoi que ce soit, sans que ça passe par la croix de Jésus, c'est un problème. Autre exemple, parfois on peut être amené à se fasciner, par exemple, des prédictions apocalyptiques. Ça, on a plus à se rappeler. Et le risque, c'est parfois qu'on se focalise davantage sur les catastrophes ou bien sur l'Antichrist, plutôt que sur l'espérance du retour de Jésus, sur la victoire remportée à la croix. Bien sûr, soyons attentifs. Le propre d'une parole inspirée de Dieu, c'est de nous faire tourner les yeux vers Christ. Et si la parole est l'enseignement qu'on apporte, je reviens à Jésus. On nous détourne d'une manière ou d'une autre de Jésus, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Le troisième point essentiel, je crois, pour prendre en compte un bon discernement, c'est qu'on n'est pas appelé à discerner tout seul. Le discernement chrétien, c'est quelque chose de communautaire. Il se fait en Église avec les frères et sœurs qui ont aussi reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans notre passage, Paul ne dit pas que chacun examine toutes choses dans sa croix. On lui dit examinez très bien toutes choses. 1 Thessaloniciens, c'est d'abord une lettre que Paul a envoyée à l'Église. L'Église de Thessalonique. Et là, on peut penser, et c'est certainement le cas, que cette lettre a été lue lors d'une rencontre de l'Église de Thessalonique, lue publiquement. Et d'ailleurs, l'invitation à examiner toutes choses se situe dans une liste de recommandations qu'on trouve à la fin de l'épître. Et si vous regardez bien les autres recommandations que je n'ai pas lues, vous verrez qu'en fait, elles contiennent la vie de l'Église. Parce que Paul dit ne méprisez pas les prophètes qui vous examinent toutes choses, s'adresse par la vie de l'Église. Et c'est dans ce cadre aussi que Paul pourrait dire en 1 Corinthiens 14, lorsque vous êtes réunis, que deux ou trois prophétisent, que deux ou trois prophètes parlent, et que les autres évaluent, discernent, jugent. Les autres, tout le monde. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez aussi des exemples de la manière dont l'Église primitive discerne ensemble, en Église. Pour un exemple, j'en mentionnerai juste deux. Acte 13. Acte 13, l'Église. Et réunis en adoration, et pendant qu'ils sont réunis, le Saint-Esprit leur dit mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour lesquels je les ai préparés pour la mission. Que faire dans l'Église? Est-ce qu'ils les envoient tout de suite? Non, le verset suivant nous dit qu'après avoir veillé, prié, ils reposeront les mains et ils laissent partir. L'Église prend le temps de veiller, de prier. De discerner ensemble la suite de la liste de parole du Saint-Esprit. Et on en voit ensuite le béni, le missionnaire. Autre exemple, Acte 15.
acte 15, on en rapporte un des sujets qui a vraiment fait une division, on va dire, de l'Église primitive, qui a créé une sorte de distinction dans l'Église d'Antioche et dans plusieurs églises du Nouveau Testament. C'est la question, que faire des non-juifs qui se convertissent? Est-ce qu'on doit leur demander de se faire circoncire? D'origine païenne qui vient à Jésus-Christ. C'est une question difficile parce que si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que la circoncision est quand même importante. Que faire? Que font les chrétiens d'Antioche? Ils ne disent pas, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui presque oui, que ce soit circoncision, il y en a qui presque non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent les représentants de leur église, qu'ils estiment fiables, et ils les envoient à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que là-bas, on trouve des personnes qui ont de l'expérience dans le discernement. Des personnes qui, pour certains, les apôtres, ont même vécu avec Jésus. Ils partagent sa vie sur terre. Ce sont des références en matière de discernement. Et là, à Jérusalem, on va encore discuter ensemble de cette question entre les responsables de l'Église. On va examiner l'Écriture. Ils vont discuter, ils vont même débattre, on le dit. Ils vont essayer de discerner ensemble la volonté de Dieu. Et au final, ils décident ensemble de ne pas imposer la circoncision aux non-juifs. Ce qui est frappant, c'est de voir aussi comment cette décision a été prise et comment on nous dit qu'elle a été prise. Dans une lettre qu'ils vont ensuite écrire et adresser aux chrétiens d'Antioche, ils disent que cette décision a été prise par le Saint-Esprit et nous-mêmes. Et comment le Saint-Esprit, l'Église ensemble, s'est appelée à collaborer. Et on pourrait multiplier les exemples dans le livre des Actes. On voit non simplement que le discernement, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à effectuer tout seul dans mon corps. Le discernement, ça se fait ensemble. Dans une discussion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne nous a pas seulement reconnecté à Dieu, mais nous a aussi connecté à tout un réseau. Tout un réseau d'hommes et de femmes qui constituent son corps, l'Église. Profitons-en. Il nous a laissé à tous le même fournisseur d'accès à Dieu, le Saint-Esprit, et c'est le vrai qu'on trouve dans l'Écriture, c'est vrai, Dieu nous parle de foi de manière directe, par son Saint-Esprit, mais le plus souvent, il parle par le biais d'autres fournisseurs, inspirés par le Saint-Esprit, pour nous transmettre quelque chose. Pourquoi? Il s'est plu ensemble. Il s'est plu de voir le vrai ensemble. En plus, on fait tous partie du même réseau. On n'a pas forcément tous le même rôle à jouer dans ce réseau. On est tous différents. Certains ont apparemment une liberté de fonction, peut-être un peu mieux la connexion. Ce sont ceux qui ont un don particulier pour le discernement. Et que le cadeau se prend du don de discerner les esprits. C'est un don spécial. Dieu a donné des tests pour le discernement dans la vie de l'Église. Et puis, on a aussi certains qui sont des valeurs qui ont fait leur preuve, qui ont une longue expérience dans le discernement. Les adultes dans la foi particulièrement matures, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus jeune. C'est aussi des personnes privilégiées parce qu'ils ont de l'expérience. D'autres aussi, parfois, ont apparemment été créés avec un processeur un peu plus développé ou davantage de mémoire vive. Ce sont ceux qui ont été mis à part par l'Église pour l'enseignement. Ils consacrent beaucoup de temps aussi à l'étude de la parole, à enseigner la parole de Dieu. Et alors, vous connaissez, l'Église leur reconnaît un don particulier dans ce domaine de l'Église, profitons-en. En avoir dans l'église locale, mais on a aussi, on a la chance aujourd'hui de pouvoir accéder à des maîtres, des enseignants illustres qui vivent peut-être à l'autre bout de la planète, et qui ont vécu il y a plusieurs centaines d'années, et qui nous ont laissé des écrits, des bons bouquins, qui peuvent nourrir notre foi, nous aider à progresser dans notre compréhension de la parole de Dieu. Nous ne privons pas de tout ça. Notre Seigneur nous a connecté à la formidable raison pour qu'on puisse discerner ensemble. Si on entend un message, un enseignement ou progressif qui peut-être nous trouble un peu, ça nous dérange, il y a une question, on se dit est-ce que c'est juste ou pas?
crois que c'est très important d'aller discuter de cela avec des frères et sœurs, en particulier des frères et sœurs qui ont l'expérience, des frères et sœurs qui pourront nous aider. Notre Seigneur nous a placés au sein d'une famille, nous a placés dans un corps composé de membres tous habités par le même esprit. Je crois que si plusieurs croyants habités par le même Saint-Esprit diffèrent ensemble, il y a bien moins de chances de se tromper que s'ils restent tout seuls avec leur Christ. Avant de terminer, on a vu que face au développement d'Internet, on a accès au plus, comme on l'a vu, on a besoin de développer notre discernement. Je vais vous proposer de prendre le temps simplement de voir Dieu maintenant, de se poser un instant, de faire un petit check-up de notre situation, de ce que j'en suis en ce moment. Passez-moi devant Dieu, simplement, on peut faire une vision pour passer devant lui. Je pose la question, Seigneur, est-ce que je suis encore sensible à la connexion du Saint-Esprit? Est-ce que je laisse encore interpellé par le Saint-Esprit, bousculé, parce que je laisse encore m'exercer, me reprendre aussi parfois, aussi de développer de telles techniques que j'espère les passer. Est-ce que je suis en la connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Est-ce que je transforme aussi de ma connexion avec Dieu? Est-ce que je suis dans mon temps quotidien avec Dieu? Mon temps de lecture de la Bible avec Dieu. Est-ce que je prends le temps de me mettre à son écoute chaque jour? Est-ce que je progresse? Est-ce que je vois que c'est dans la journée de progresser dans ma connexion, dans ma connaissance de la parole de Dieu, de la Bible? Est-ce que Christ occupe la place centrale dans ma vie? Est-ce que c'est l'heure pour moi à la croix? C'est le premier sujet de reconnaissance qui a fait que je me lève le matin. Est-ce que ce que Jésus a accompli pour moi, c'est ma première source de motivation pour aller de l'avant, pour obéir au Seigneur? Et qu'est-ce que j'entretiens cette connexion avec mes frères et sœurs, avec les autres membres qui ont réuni vivant? Est-ce que j'en suis dedans dans ma vie d'église? Est-ce que je prends part à la vie de l'église? Posez devant Dieu une question de ce lequel on doit demander pardon pour prendre dans notre cœur, chacun sa place, on peut vous demander son aide aussi, pour progresser avec de l'avant. Le Seigneur Jésus, on va l'heure de montrer avec toutes les imperfections. Avec reconnaissance aussi de ce que tu nous as appris à toi. Tu nous as reconnecté à Dieu par ton sacrifice à la croix. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon pour toutes les fois où nous ne prenons pas le temps de développer cette connexion avec toi. Cette relation personnelle avec toi. Nous te demandons pardon et nous voulons saisir comme Jésus-Christ ce pardon. Nous voulons saisir par la grâce qui nous a été donnée la motivation pour aller de l'avant aussi, pour progresser encore, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour nous faire progresser, qui prend encore toujours et plus davantage de place dans nos vies. Seigneur, nous éclairer. Dans ton nom, Jésus, je te prie. Amen.